France Culture.
Carrure 21, dos 52-78, grosseur du haut 104, ceinture 104, manche coude 50-76, largeur 23-22-16. Voilà les mesures de Balzac, telles que notées par son tailleur un certain Pion à Saché, Indre-et-Loire. Des mesures que Rodin, presque 50 ans plus tard, est allé chercher auprès de ce même monsieur Pion. Mais pourquoi faire ? L'historienne de l'art et de la mode, Marine Kiesel, nous rejoint. Elle a mené l'enquête et elle va tenter de répondre à cette question.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
C'est une artiste qui travaille aussi, entre autres choses, sur les vêtements, qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Carla Adra, une émission qui se terminera par une rubrique actualité consacrée au dernier numéro de la revue Mots, au pluriel, sous-titre Les langages du politique. Un dossier qui est consacré aux mots des guerres culturelles. Il y a des guillemets à guerre culturelle. C'est le politiste Cédric Passard qui nous rejoindra pour parler de ce numéro. Bonsoir Marine Kiesel.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur de Dérobade, au pluriel, Rodin et Balzac en robe de chambre, un bref volume, un livre très très singulier. Vous êtes historienne de l'art et de la mode, et c'est une autre manière de faire de l'histoire de l'art que vous envisagez avec ce petit livre à propos d'un artefact, on peut dire, un objet. Vous dites une œuvre. Quelque chose dont on ne sait pas très bien ce que c'est, au fond, mais qui a été, par exemple, présenté dans une exposition au Centre Pompidou-Metz, une exposition qui était titrée « Chef-d'œuvre, point d'interrogation ». Alors, vous dites « c'est une œuvre, est-ce un chef-d'œuvre ? » Que faire avec cette fameuse étude pour la robe de chambre de Balzac, puisque c'est bien de ça dont il s'agit ?
Alors, qu'en faire ? Merci pour cette question. D'entrée de jeu, qu'en faire, c'est ce que peut-être je n'ai pas choisi de décider dans cet ouvrage. C'est une petite forme, vous l'avez dit, une petite forme qui était peut-être pour commencer la volonté de ne plus faire d'histoire de l'art. Je l'ai beaucoup pratiqué, l'histoire de l'art classique, pourrait-on dire, et je l'ai trouvée parfois docte, à certains égards enfermante, et justement, là, l'étude de robe de chambre pour Balzac de Rodin, qui est une drôle de chose, un fantôme de plâtre, peut-être pas une œuvre exactement, peut-être pas un chef-d'œuvre, un artefact. En fait, c'est un objet très particulier, de l'ordre du reste, c'est-à-dire en fait aussi de cette anthropologie des restes d'Octave de Bary, c'est-à-dire ce qui reste dans l'atelier quand Rodin a abouti ce qui semble être, à nos yeux d'historien, historienne de l'art, son premier travail, c'est-à-dire d'élaborer un grand monument célébrant un grand homme, Balzac, une statue. Et en faisant ce métier de statuaire, Rodin en passe par un travail d'atelier que l'on regarde aujourd'hui, mais que l'on a aussi occulté, parce que l'histoire de l'art, c'est la grande marche des chefs-d'œuvre. Et c'est le grand triomphe des artistes. Et la robe de chambre, avec toute sa modestie, avec le fait qu'elle est peut-être issue de la main des praticiens, avec le fait, je crois surtout qu'elle a rien à nous dire et qu'elle a pas envie de nous parler, eh bien elle s'est tenue devant moi, ou plutôt moi devant elle, pendant près de 2 ans, alors que je travaillais à l'élaboration d'une exposition qui est aujourd'hui ouverte au Musée Rodin et qui s'appelle « Corps invisibles ». Mais le livre dont nous parlons, c'est en fait une réflexion qui n'est pas l'exposition. Une exposition, c'est une promenade que l'on offre à un public avec des œuvres dans leur dimension petite, grande, celle qu'on obtient, celle que l'on n'a pas en prêt, et puis qui va de A à B. Et puis il faut être efficace, du moins je l'espère, et amener le public dans une narration, lui dire des choses, en tout cas essayer. Alors j'essaye aussi dans ce livre, mais ce que j'ai surtout essayé de faire, c'était de me perdre en suivant la robe de chambre et en suivant toutes ces chausse-trappes, et de fait, toutes ces dérobades. Parce que la robe de chambre, c'est un objet, vous le disiez, peut-être pas un chef-d'œuvre, en tout cas un monument d'indétermination qui vous invite à regarder l'histoire de l'art, l'histoire de Rodin, l'histoire de sa propre pratique, l'histoire de la création de cet objet, l'histoire du 19e siècle, l'histoire de la mode, l'histoire du corps, l'histoire de tant de choses, à partir d'elle, et en lui demandant de temps en temps si elle est d'accord avec ce que vous dites, ce à quoi généralement elle ne répond pas, ou de temps en temps vous répond oui pour mieux ensuite vous contredire.
Alors c'est ce récit que je vous propose de faire en partie, de retracer, de revisiter, au fond, aujourd'hui, à la suite dans les idées, en partant peut-être de cette scène inaugurale, celle durant laquelle Rodin va obtenir les mensurations que j'ai commencé par citer dans cette émission, puisque Rodin, presque 50 ans après la mort de Balzac, se rend en Indre-et-Loire, à Saché, là où il y a aujourd'hui encore la maison de Balzac. Et il retrouve un monsieur qui est ce tailleur, qui est toujours vivant, et qui est celui qui a confectionné des vêtements pour Balzac. Mais qu'est-ce que Rodin est allé faire? Ça fait partie d'une enquête qu'il mène, parce qu'on va revenir sur les conditions dans lesquelles il mène cette enquête. Mais avant de produire cette statue qui lui a été commandée, Il a dit qu'il lui fallait du temps et il prend ce temps pour faire une enquête, pour se documenter, on peut dire.
Oui, quand Rodin se voit commander par la Société des gens de lettres un monument à Balzac, il est tout à fait déterminé à répondre à la commande. Et il se met en fait dans la grande tradition des statuaires de son temps. Il le dit, je ne veux rien commencer avant d'avoir rassemblé le plus de documents possible. Et donc il se rend en divers lieux, tout d'abord à Paris et ensuite à Bruxelles, chercher l'image de Balzac, notamment chez un collectionneur un peu monomaniaque, comme le 19e en compte, qui a collectionner toutes choses balzaciennes, 90% des manuscrits de Balzac, mais aussi des mèches de cheveux, du papier jauni ayant été bleuté, enfin, on est vraiment dans le culte de la relique, et la relique. Et puis, il va ensuite rechercher un corps, comme le font les sculpteurs de son temps, et donc il l'étudie nu, c'est-à-dire que en bon naturaliste, en fait, il se rend à Saché, il se rend en Touraine, et il voit passer dans la foule des corps, des conformations, en se disant, tiens, au moment où il avise un chartier tourangeau, c'est lui, Balzac.
Il cherche le tourangeau.
Alors il cherche le tourangeau, puis il cherche un tourangeau qui répond à certaines descriptions, comme celle de Gautier, et qui sont celles, en fait, d'un homme, disons-le très vite, gros, petit et ventru. Et ensuite, il fait une dernière chose qui m'a particulièrement intéressée, mais qui jusque-là n'avait pas été observée par les historiens d'art, sans doute parce que c'était trop peu de choses. Il se rend, vous le disiez, chez le tailleur de Balzac, René Pion, à Saché. Le vieux petit tailleur de Balzac, qui fut le jeune tout petit tailleur de Balzac, quand Balzac était encore vivant, et qui a 70 ans quand Rodin toque à sa porte, et qui se remémore les dimensions même du corps de Balzac, mémoire légendaire des tailleurs, pour refaire quelque chose à Rodin. Et si je dis quelque chose, c'est parce que, et là je pratique véritablement une sorte de history from below, aller voir les traces insensées,
les
presque
traces
insensibles,
allez...
les traces matérielles et aussi les traces infimes. Je pense que mes prédécesseurs se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il aille chez un tailleur? Ben, pour moi c'était extraordinaire, déjà en historienne de la mode, et puis aussi dans un regard sur les corps, parce que aller chez le tailleur, c'était aller chercher à retrouver le corps d'un homme mort. Et la sculpture et la statuaire publique est profondément anachronique.
Mais déjà, le mot tailleur pour un sculpteur, on comprend que ça lui parle aussi.
Encore que Rodin n'ait jamais taillé grand-chose de ses mains, puisque c'était plutôt un homme qui modelait. Mais en allant voir le tailleur, oui, il cherche à retrouver en fait l'enveloppe d'un corps disparu par le vêtement. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était de constater que, tandis que Paris et le Monde, le Herald Tribune, la Gazette à Genève, attendent le Balzac de Rodin qui n'arrive pas. Ça, c'est assez classique chez Rodin, c'est la même chose avec La Porte de l'Enfer.
Mais il y avait cette attente internationale et très présente dans la presse.
Oui, il y avait une grande attente, et une grande attente qui faisait que, en fait, 26 fois, en l'espace de 7 ans, la presse dit « Rodin est allé chez le tailleur de Balzac et lui a fait faire un pantalon à pont et à sous-pieds, un pantalon à pont, à sous-pieds et un gilet, un complet, deux complets. » Et cette espèce d'emphase mythologique, c'est le premier matériau mythographique, en fait, à partir duquel j'ai travaillé, c'est de se dire qu'il y a là, en fait, des légendes qui dépassent les corps, que les hommes cherchent à appréhender pour mettre en œuvre une opération, en fait, très particulière, qui est celle de la statuaire publique, représenter une personne disparue, pour en faire, non pas vraiment l'image, mais davantage un symbole.
Image. Je m'arrête sur ce mot parce que vous choisissez ce mot aussi pour qualifier la robe de chambre, enfin, cet artefact qu'on peut voir au musée Rodin, c'est pour vous, alors même que c'est un objet en trois dimensions, c'est pour vous une image. En quel sens ?
Déjà parce que le 19e siècle est le siècle de l'image. C'est le siècle de la presse, c'est le siècle de la reproduction technique, c'est le siècle de l'imprimé et c'est le siècle de l'image que l'on va reproduire à des millions d'exemplaires, que l'on songe aux couvertures du Petit Parisien. Enfin, c'est vraiment un siècle de l'image. Mais image aussi parce que jusqu'à il y a quelques siècles, les sculpteurs étaient considérés comme des imagiers, avec un joli Y pour commencer le mot. C'est-à-dire en fait des sculpteurs, des tailleurs d'images. Et quand Rodin en fait se confronte à Balzac, il se confronte à l'image d'un homme qui est un géant, c'est le père du roman 19e, et sans doute qu'il se confronte aussi un peu à sa propre image, puisque peu ou prou, au moment où en fait les choses vont mal tourner, Rodin n'abandonne pas cette œuvre parce que bientôt Balzac c'est lui, c'est-à-dire le grand homme à faire monter sur un socle. Et si je parle d'image, en entamant ce livre et en regardant cette chose, cette œuvre, cet artefact, c'est aussi parce que je me mets dans le sillage de Jean-Christophe Bailly, qui a publié un livre éblouissant qui s'appelle L'Imagement, où il estime en fait que...
En un mot,
l'imagement, c'est-à-dire ce processus par lequel la chose fait image, et l'image fait quelque chose à nos vies. Et il y a une injonction chez Bailly à aller voir en fait comment l'image suspend, il le dit... l'ordre du signe et du discours, c'est-à-dire comment en fait l'image arrête les flux devant elle.
C'est un seuil, dites-vous.
Et crée un seuil. Et ce seuil que nous invite à observer Bailly, et surtout sur le seuil duquel il nous invite à nous tenir, je trouve que c'est une formidable leçon d'humilité pour les historiens et historiennes de l'art, et c'est aussi une extraordinaire méthode heuristique. Regardez là une image en train de se faire, de se défaire, de se réinventer devant vos yeux. Regardez ce qu'elle vous dit, regardez ce que vous essayez de lui dire, mais que peut-être vous n'arrivez pas à articuler. Regardez ce dialogue en train de se faire dans cette espèce de béance de la césure, comme le dit Bailly. C'est en fait retirer les mots de la contemplation, chercher à comprendre peut-être la matière interstitielle. Et c'est là ce qui se joue aussi. Le fantôme de nos sensations, le fantôme de nos perceptions, le fantôme de notre conception, en fait, de la société, des corps et des relations. Et aller voir dans cette épaisseur, dans cette matière, comment on peut tout à la fois se tromper, rêver, dire, tenter de faire un peu de science, mais peut-être pas trop.
C'est pour ça que, à plusieurs reprises, dans ce livre, bref, pourtant, Marine Kiziel, vous dites que vous vous tenez face à cette image qui est l'image d'un fantôme.
Oui, parce que peut-être peut-on la décrire, cette œuvre. C'est une espèce de grande forme blanche qui est comme une robe de chambre refermée sur un corps disparu, avec une béance singulière, un trou noir au niveau du cou, du col, de la tête qui s'est échappée. Il n'y a pas de Balzac dans ce corps. Une semblable béance au niveau des manches. Et l'idée donc d'un corps qui se serait refermé sur du vide.
En plâtre.
En plâtre, parce que Rodin a un jour trempé, ou fait tremper par ses praticiens, une robe de chambre dans le plâtre, l'a moulée sur un corps. Le plâtre et la robe de chambre ne tiendraient pas, ça met des jours et des jours à sécher, sans un corps. A ensuite moulé le tout, extrait et le corps et la robe de chambre, enfin c'est une métempsychose quand même particulière, pour arriver à cet objet qui va lui donner, c'est vrai, le chemin vers son Balzac. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que la robe de chambre du Balzac, de Rodin, telle qu'on l'appelle au musée Rodin, et habituellement, n'est pas en réalité le ready-made. Ça n'est pas l'objet sur lequel on mettrait une tête et voilà, le grand Balzac final.
Ça, c'est un écueil à éviter. Il ne faut pas faire l'histoire de l'art en pensant immédiatement à Marcel Duchamp.
Non, surtout quand
on se trouve
avant. Je vous approuve. Et en bonne 19e, je reste dans mon terrain. Là, j'étais entre 1891 et 1898. Marcel était en train de réfléchir sans doute, mais pas encore de produire. Et la robe de chambre, elle est invitée en fait à ne pas aller trop vite en besogne, à ne pas la considérer comme une sorte de servante d'un grand dessin moderniste, le Balzac, Alfred Barr, le MoMA, vous voyez, on pourrait aller très vite vers le XXe siècle. Et au contraire, à se demander en fait ce que cet objet bizarre, ma foi, avait à nous dire, et dans ses refus, ce qu'il pouvait dire d'un siècle qui avait lui-même refusé en fait le Balzac final de Rodin. Et cet incessant aller-retour, c'est un dialogue, c'est un monologue à deux voix, je ne sais pas exactement, ou un dialogue à une seule. Et c'est aussi une entreprise qui est de tenter de rendre aux objets leur indépendance, leur agentivité, et de voir en fait, en les conservant et en les observant comme ceci, en faisant en fait une sorte de biographie, tout ce qui se déploie de mythes et de faux-semblants à partir d'eux.
Peut-être peut-on préciser la nature, le contexte de la commande. Parce que Balzac, vous le disiez, c'est le grand homme. Enfin, il y en avait d'autres. Je pense à parce que j'ai entendu le mot métempsychose, je pense à Hugo bien sûr, mais il y en avait d'autres au 19e, mais enfin quand même, Balzac c'est quelque chose au moment où cette commande est passée, et en même temps c'est au Père Lachaise une tombe abandonnée, et donc il y a l'idée quand même de se saisir de ça dans le monde des lettres, chez les gens de lettres, dans cette société des gens de lettres dont Balzac a été l'un des fondateurs. Et il se trouve d'autres écrivains, et notamment Émile Zola, pour être à l'initiative de cette commande.
Oui, parce que le 19e siècle est un siècle du monument public, un siècle de la célébration des héros, un siècle d'après la Révolution, où dans une société en fracas, dans une société qui ne se reconnaît plus ni de hiérarchie ni de structure, qui se cherche des régimes, eh bien, il faut quelques réassurances. Et la statuaire publique qui fait monter sur des socles des grands hommes, c'est-à-dire généralement des hommes blancs, cis, triomphants,
Souvent à cheval,
avec leurs inventions, avec leurs victoires, avec leurs réussites, avec ce qu'on considère comme des réussites. Eh bien, ces grands hommes-là montant sur des socles viennent dire à un peuple que nous incarnons en fait toujours aujourd'hui, puisqu'ils sont toujours dans notre espace public, ce qui doit être, et c'est une idéologie, c'est-à-dire ce qui doit être considéré comme le génie, comme le succès, comme le bien, finalement, contre un certain mal qu'il faudrait ne pas représenter, et surtout évacuer de nos représentations visuelles et mentales. Et effectivement, tout Balzac qu'il ait été, Balzac n'était pas statufié lorsqu'en 1891, Zola reprend le flambeau de la Société des gens de lettres, passe la commande à Rodin et obtient en fait qu'une souscription mise en place en 1883 tente d'aboutir. Pour contredire en fait une chose très simple, c'est que Madame Anska, la veuve de l'écrivain, avait jusque-là refusé toute chose et préféré la médiocrité d'une tombe sans nulle effigie à cette célébration qu'elle semblait ne pas vouloir lui échapper. Et Zola, lui, remet les gens de lettres dans une sorte de droit chemin qui va peut-être les faire se fourvoyer un peu plus tard, qui est celui de la commande de cette statue, à un homme qu'il considère comme génial, mais qui va en fait mettre beaucoup plus longtemps à aboutir son œuvre que les gens de lettres ne le souhaitaient.
Donc il y a l'impatience.
Alors là, il y a l'impatience des commanditaires, ouais, c'est normal, on a récupéré 30 000 francs par souscription publique et on veut une œuvre parce que, en fait, en bon messieurs en habit noir du 19e, on veut pouvoir inaugurer la sculpture et mettre quelques fleurs et un ruban au bas de son grand homme, c'est-à-dire au bas du roman que tous cherchent à défendre et que la société s'emploie ainsi à protéger. Et patatras pour différentes raisons, mais justement parce que Rodin est allé prendre plein de documentation et que ce qu'il a trouvé chez le tailleur, c'était un corps auquel on ne s'attendait pas.
Alors, vous l'avez décrite, cette œuvre, elle est très étrange au regard des œuvres considérées comme achevées et qui sont montrées. Mais elle procède des mêmes techniques et notamment du moulage. Et à ce titre-là, elle vous intéresse aussi.
Oui, c'est une œuvre particulièrement intéressante parce qu'elle procède en fait de ce qu'on appelle un moulage à creux perdu. Il faut imaginer en fait que dans l'atelier de Rodin, la superposition que j'évoquais tout à l'heure d'un corps recouvert d'une robe de chambre trempée dans le plâtre, dans une gangue de plâtre, elle également, qui va permettre de couler à l'intérieur une œuvre plus pérenne, eh bien, cette œuvre, dans l'atelier, elle relève d'une pratique assez habituelle. Le moulage, d'une part, mais aussi le moulage sur le vif. Et le moulage sur le vif, c'est une grande passion du 19e, qui consiste en fait à mouler tout ce que l'on peut pour garder l'empreinte du vivant, là même où la sculpture est un art, il faut le dire, et surtout au 19e, de l'inanimé. Et mouler sur le vif, c'est aussi ce que Balzac, dans l'avant-propos de la Comédie humaine, se propose de faire, c'est-à-dire en fait de mouler sur le vif la société remuante de son temps, il le dit, en quelque sorte, la Comédie humaine, c'est par cette littérature des physionomies, le fait de représenter, de presque mouler dans le temps même de son vivant, la société que Balzac a
c'est
autour
de lui. C'est
le côté
presque street photographie, on pourrait dire.
On pourrait dire ça.
Balzac avec anachronisme.
C'est l'idée, oui, d'aller attraper en fait ce qui bouge, ce petit mouvement de la vie dont on ne sait plus exactement ce qu'elle construit dans ce siècle, je le disais, post-révolutionnaire. Et Balzac lui-même, né un an avant le siècle, en 1799, a été très frappé en fait par la terreur, par la tabula rasa. Et il le dit même, toujours dans cet avant-propos, en 1839, on ne se souviendra plus de 1829. Autrement dit, en fait, le 19e siècle a peur de tout ce qui va disparaître. C'est un siècle qui est traumatisé par la perte irrémédiable d'un avant, qui est l'ancien régime, la stabilité fantasmée. Et donc, en fait, mettre des bons hommes sur les socles, tenter de représenter tout un chacun à travers cette pratique des physionomies, à travers l'écriture du roman, telle que la pratique Balzac, eh bien, c'est chercher en fait à saisir un petit peu de ce qui disparaît. Et là, la robe de chambre, elle est puissamment dialectique. Parce qu'à la fois, elle est dans la mythification de la recherche d'un corps qui serait celui de Balzac, mais Balzac est mort, c'est impossible. Et en même temps, avec l'idée de la robe de chambre, avec l'idée du textile, avec l'idée du costume que Balzac va que Rodin va refaire chez le père Pion, le tailleur, eh bien, il y a l'idée en fait qu'on peut aller s'approcher d'un corps fantasmé. Et ça, c'est une économie de la relique qui, évidemment, après les destructions révolutionnaires, après un siècle de révolutions successives, on a à cœur en fait de faire vivre au 19e. Et Rodin, donc, mène son petit bonhomme de chemin, mais se perd aussi dans cette documentation parce qu'elle lui donne presque trop d'informations.
Ce 19e siècle, c'est un long siècle. Le 19e siècle de Balzac, ce n'est pas celui de Rodin. C'est aussi ça que permet de mieux comprendre cette robe de chambre. Et notamment, le corps n'est plus le même. Le corps évolue. Le corps de l'époque de Balzac est encore un corps hérité du 18e siècle. C'est encore un corps éventuellement né... D'ailleurs, au XVIIIe siècle, c'est le cas de Balzac. À l'époque de Rodin, les hommes et les femmes, j'imagine, ne ressemblent pas à ceux de 50 ans auparavant.
Non, et ça, je l'aborde tous les jours dans mes fonds, puisque je suis en charge au Palais Galliera, qui est le musée de la mode de Paris, du département 19e. C'est extrêmement émouvant. Aller voir les corps... Après 1850, c'est aller voir des corps petits à travers des vêtements qui sont en fait très émouvants dans ce que il nous semblerait à bien des égards des vêtements d'enfants en termes de taille. Et après 1850, avec l'établissement de la révolution industrielle, un meilleur accès, je pense, à l'alimentation, une vie plus stable, peut-être aussi moins de soubresauts politiques, hein, en tout cas en France, les corps sont plus amples. Et en fait, c'est ça aussi qui est en jeu avec cette robe de chambre et ce travail que Rodin va faire chez le père Pion, c'est que le corps qu'il découvre est un corps gros. Et au début du 19e siècle, surtout pour les hommes, parce que chez les femmes, à partir de 1830, la taille de guêpe légendaire des sylphides devient inattendue. Mais chez les hommes, début 19e siècle, le corps gros est encore un corps de puissance. Et surtout chez celui qui produit, que ce soit par l'esprit ou d'autres manières, chez aussi celui qui est un amateur de bonne chair, le gastrophore. Et donc, être gros, mais c'est une valeur positive. Alors qu'à la fin du 19e siècle, et ça je l'ai découvert en plaçant mon sismographe sur les vibrations de la presse, à la fin du 19e siècle, être gros, ça n'est pas possible. Et c'est justement en lisant la presse dire des choses toujours par le côté. Il était gros, il était petit, il était ventru, il était disgracié de la nature, il était massif, court, disproportionné, rondelé, trapu, courtois, envahi par la matière, comique. Vous voyez, que je me suis rendu compte qu'à jamais, jamais aucun de ces littérateurs ne disait « il est gros ». Et que pourtant tous, en fait, refusaient l'œuvre de Rodin qu'il commentait parce qu'il refusait un corps de Balzac pour ce qu'il était justement trop gros. Et c'est une chose que l'on peut aller chercher en fait dans le fait politique et dans bien des représentations fin 19e. Gambetta, par exemple, ses amis le pressent pour être un homme politique qui ait du succès à faire régime. Et ça, c'est étonnant parce que donc au moment de faire monter un homme de 1830 sur un socle en 1890, il n'a plus le droit, fût-il Balzac, d'être gros. Et ce problème qui s'est révélé devant mes yeux en travaillant, est véritablement le problème que j'ai enfin, je crois, compris que Rodin avait eu, et qui est un problème en fait de représentation, de non-dit et de refus. Et là, c'est extrêmement saisissant de se dire que on a beau être celui que l'on considère comme le père du roman, l'un des plus grands écrivains du 19e siècle, on a beau avoir réuni une somme d'argent folle pour le statufier, il n'a pas le droit d'être lui-même. Et là s'ouvre eh bien une grande réflexion sur les monuments publics que j'ai souhaité mener à l'aune en fait des événements d'aujourd'hui, puisque à la faveur du mouvement Black Lives Matter depuis
les déboulonnages,
ans, il y a eu des déboulonnages et il y a eu en fait une prise à partie, disons-le comme ça, de la statuaire publique. On pourrait le voir en poussant des cris d'orfraie, ah, on met à bas notre héritage. On pourrait aussi aller voir ce que toute prise à part de notre passé justement et des certitudes toujours relatives qui nous entourent dit de notre temps. Et aller regarder en fait pourquoi les monuments tombent, c'est se demander pourquoi ils sont montés, et aussi pourquoi et comment ils n'ont pas toujours réussi à monter, c'est le cas de Balzac, sur leur socle, puisque la sculpture, c'est peut-être le moment de le dire, a été refusée par les gens de lettres à Rodin, Penaud.
Il y a un auteur qui vous aide à penser une relation aussi entre ce monument et le document,
ouais,
qui est cette robe de chambre, c'est Michel Foucault. Et c'est une manière pour vous aussi de plaider une certaine façon de faire de l'histoire en général et de l'histoire de l'art en particulier.
Oui, il y a eu un moment où je me suis retrouvée complètement piégée dans les filets de la robe de chambre qui vous laisse parler et puis qui vous amène finalement à dire, alors que je l'ai professé il y a encore un instant, je ne le souhaitais pas, quelle était la résolution sur le chemin du Balzac. Mais pas du tout. Et en ouvrant l'archéologie du savoir, en réouvrant l'archéologie du savoir, bien, il y a ces pages bien connues sur la distinction entre documents et monuments. Et Foucault invite à ne pas regarder les monuments comme des documents, c'est-à-dire pour écrire une histoire figée, qui serait une histoire, une sorte d'histoire bataille, mais au contraire, à aller, il le dit comme ça, et c'est magnifique, déplier le tissu documentaire. Et c'est ça aussi toute la beauté de cet objet que nous regardons, là, in abstracto, la robe de chambre, c'est du tissu. C'est un tissu de documents, c'est un tissu de projection. Et en fait, aller déplier, à l'invitation de Foucault, le tissu documentaire autour de la robe de chambre, c'est tenter d'aller déplier un siècle, et d'aller regarder cette... continuons la litanie, cet objet, cet artefact, cette chose, ce reste, comme cette fois-ci un document, et se demander comment on peut l'extraire de l'espèce de marche triomphale qui en ferait une étape vers le Balzac monumental, et au contraire, la restituer pour elle-même, en elle-même, face à nous, dans sa valeur en fait matricielle. Et pour moi, c'est toujours beaucoup plus intéressant de considérer les œuvres d'art comme des choses en génération, qui procèdent des artistes, mais qui sont aussi... le reflet de leur temps, qui sont parfois acceptés ou refusés par leur temps. Et donc,
la réception est très importante.
Voilà, qui font en fait chambre d'écho aux préoccupations d'une société. Et c'est ainsi, par exemple, que je suis allée vers des documents extrêmement modestes à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, l'INPI, pour aller constater combien les tailleurs du 1er 19e siècle, se considérant post-révolution, post-suppression des corporations, après l'instauration du système métrique, se considérant comme... des ingénieurs, comme des géomètres, sont allés déposer des centaines de brevets, j'en ai sorti 600 pour la première moitié du 19e siècle, brevets qui mettent leur profession sur, eux aussi, un piédestal, et qui sont surtout des brevets d'instruments de mesure du corps. Et là, c'est fascinant, parce qu'en fait, mesurer le corps et inventer le rapport poids-taille peu après, c'est une passion des tailleurs, mais c'est aussi une passion... de la statistique.
Vers l'indice de masse corporelle.
Bientôt ouais. De l'anthropométrie judiciaire, effectivement. Et, en tout cas, à un moment, l'œuvre d'un homme qui s'appelle Adolphe Quetelet, qui est un exact contemporain de Balzac, et qui invente ce que nous connaissons encore aujourd'hui comme l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est-à-dire, disons-le à la suite des militantes féministes et de toutes celles qui travaillent sur la grossophobie, comme un instrument d'oppression, réutilisé dans les années 1970 par les compagnies d'assurance pour disqualifier des corps, c'est-à-dire ne pas assurer et ne pas donner de protection à certains au détriment d'autres. Et c'est donc aller regarder comment ce rapport poids-taille, qui est un instrument statistique plus ou moins farfelu comme plein de choses au 19e, devient un outil pour mesurer les corps et pour tenter de dire ce que l'on accepte et ce que l'on refuse. Et là, ça fait beaucoup, vous voyez, de fois où on se dit, tiens, il y en a qu'on accepte et il y en a qu'on refuse. Et ça m'a intéressé d'autant plus que, en fait, du point de vue de la mode, et j'y reviens là à la mode, mesurer les corps, ça a permis de faire une sorte de big data du 1er 19e siècle et d'avoir des dizaines et des dizaines, des centaines et des millions de mesures de corps divers qui ont permis en fait à la corporation des tailleurs, qui faisaient du sur-mesure, d'aboutir à un système de gradation qui est peu à peu et peu ou prou aujourd'hui notre 5, 6, 7 tailles pour tous.
C'est devenu le prêt-à-porter.
Et c'est devenu le prêt-à-porter. Et ce passage en fait du sur-mesure à la confection, c'est aussi le passage du siècle entre le sur-mesure des tailleurs et la confection des grands magasins. Et d'ailleurs, à Rodin, on lui reproche en quelque sorte, à la fin du siècle, des critiques et des journalistes le disent, de ne pas vouloir livrer du bronze à la confection, de ne pas vouloir habiller Balzac de bronze à la conception. Et ça, c'était extraordinaire. C'est comme si, en fait, Rodin avait une sorte d'éthique qui était encore celle des tailleurs, voulait faire un sur-mesure d'un homme, alors qu'on lui demandait simplement de dire, ben voilà, c'est un génie. Un génie, il lui faut une redingote, un gilet, un pantalon, une barbe bien taillée, et vous le mettez sur un soc, ça suffit.
En vous écoutant à l'instant, je pense à des choses lues récemment sur les statues de Lénine qui sont précisément sur ce modèle avec la casquette, toujours la même. Mmh. Ces statues qu'on a vues tomber en Ukraine, notamment, et à propos desquelles Dominique Collat a fait un livre très intéressant. Votre livre se termine par des annexes passionnantes. On trouve la liste des commandes passées par Balzac auprès d'un autre tailleur, parce qu'il n'y a pas qu'à sachez qu'il se... faisait confectionner des habits, mais aussi chez Jean Buisson, rue de Richelieu à Paris, entre 1830 et 1840. Et alors le nombre de robes de chambre, vous listez absolument toutes les robes de chambre, pas que des pantalons, mais enfin, surtout beaucoup de robes de chambre quand même.
Ça a été le grand plaisir, c'est le grand plaisir de la recherche, et moi j'aime en faire pour cela, c'est qu'en fait, de temps en temps, on n'ouvre pas le bon registre et on tombe par contre sur la bonne information, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et je suis tombée sur les factures en fait, du tailleur Jean Buisson à Balzac, entre 1830 et 1840. 10 ans, petite carotte, pour ce qui nous est arrivé, et qui arrive d'un seul tailleur. Et on sait qu'il en avait plusieurs, c'est une sorte de prince de la fast fashion, Balzac. Eh bien, en fait, il se fait faire 26 robes de chambre. C'est-à-dire que le mythe de Balzac en robe de chambre, que lui-même a mis en place au moment où il s'est fait représenter par Boulanger, eh bien, en fait, est aussi une obsession intime. Il semble, effectivement, qu'il écrivait... Alors, j'ai aussi les factures des litres de café, qu'il écrivait avec des litres de café et bien d'autres aises, matérielles et gastronomiques, en robe de chambre. Mais alors, ces robes de chambre ne sont pas toujours blanches, ne sont pas toujours celles du bénédictin, et c'est des cachemires, et c'est des soies, et c'est extraordinaire. Et c'est la construction de l'homme par lui-même, là.
Et il y a tous ces détails dans ces annexes qui sont en elles-mêmes une poésie, j'ai envie de dire. Ce livre est truffé de listes, par ailleurs. Et j'aurais terminé cette première partie en soulignant à quel point il est écrit d'une manière très, très, très singulière. C'est vraiment une autre façon de faire de l'histoire de l'art. C'est de l'histoire de l'art, mais... Je trouve que c'est aussi de la littérature, ce livre. Dérobade, Rodin et Balzac en robe de chambre. On continue d'en parler dans la deuxième partie de l'émission avec une artiste qui nous rejoint, Carla Hadra. C'est après un extrait d'un des albums marquants fait en France cette année, un album d'Olivier Rocabois qu'on écoute.
Change all the signs. this is where I want to be right now.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Dérobade, c'est le titre du livre de Marine Kiziel dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Rodin et Balzac en robe de chambre. C'est un livre, je ne l'ai pas encore dit, qui paraît aux excellentes éditions B42. On continue d'en parler avec vous, Carla Adra, vous êtes artiste, plasticienne. Et vous étiez venue dans cette émission il y a quelques mois en écho à un livre de Camille Ropsis sur la psychothérapie institutionnelle et en écho à une exposition à laquelle vous aviez participé au Palais de Tokyo. Mais de manière plus générale, votre travail fait sans doute assez largement écho avec des choses dont on a parlé aujourd'hui parce que pour vous, le vêtement est quelque chose, je ne sais pas comment, j'ai dit quelque chose parce que je ne sais pas comment le qualifier, d'important. Dans votre, c'est pas un médium, c'est pas, je sais pas comment vous diriez.
Oui, alors oui, bah c'est vrai que le vêtement, en fait, c'est une sorte de conséquence à une réflexion qui est arrivée un peu d'elle-même, mais pour rebondir un peu sur le livre de Marine. Enfin, la première chose aussi à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, mais en fait. Balzac, c'est un écrivain et Rodin a sculpté un écrivain. Et en fait, ce que j'ai trouvé touchant au fur et à mesure de mon travail qui est celui de la performance, donc qui questionne vraiment l'idée du corps. Enfin, je pars tout d'abord d'un corps, mais en fait, c'est aussi quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure, mais qu'un corps, il est fait de lettres et de mots et d'un récit et que ben, l'écriture en fait d'une personne se construit au fur et à mesure et c'est ce récit que j'ai un peu transformé comme un vêtement que j'ai pu incarner, enfiler. Alors à la fois ça peut être une sorte de vêtement de sonore. Donc par exemple, il y a un projet que j'ai développé qui s'appelle le Bureau des pleurs et qui était où j'ai recueilli beaucoup de témoignages de plusieurs personnes dans la rue et qui me parlaient d'une injustice qu'ils avaient vécue. Puis ensuite, j'écoutais en fait ces témoignages et je les redisais pour pouvoir en fait les transmettre de manière aussi anonyme, mais pour en fait je l'imagine un petit peu comme un
enfiliez comme des vêtements.
Voilà, comme si je les enfilais comme des vêtements, exactement. Et ensuite dans différents projets en fait il y a aussi la possibilité de porter aussi son propre récit. Alors, dans l'idée d'un autre projet où j'ai fait avec des femmes de plus de 60 ans à qui j'ai demandé en fait de me raconter leur récit de vie que j'ai ensuite réécrit et en fait en l'incarnant, pour moi c'est aussi de la même manière où en fait elles se sont vêtues de leur propre récit. Et Et en fait, dans d'autres projets, finalement, le récit des autres me permet presque d'entrer en empathie avec ces personnes. C'est vraiment comme quand on va porter le vêtement de quelqu'un qui nous est cher ou même que cette personne est disparue et qu'on va ressentir aussi l'émotion de cette personne, l'histoire de cette personne. Et c'est très fort comme ça peut nous transformer. Et donc du coup, j'ai produit aussi des vêtements qu'on pourrait enfiler pour se sentir dans la peau d'un autre ou d'une autre. Et pour devenir l'autre d'une certaine manière, mais qui est jamais vraiment possible. Mais c'est une manière de l'essayer, en tout cas.
Marine Kiziel, vous connaissez le travail de Carla Adra?
Oui.
Qui vous intéresse pour les raisons qui précisément viennent d'être énoncées, c'est-à-dire ce rapport entre la peau et le vêtement, notamment, et puis la dimension narrative dont elle parle.
Absolument, ce lien entre l'intime des corps et la puissance des récits, ce qu'on est à soi-même, et cette peau qui est aussi un espace liminal de transition vers l'extérieur. Et je suis très sensible, oui, dans le travail de Carla, à la recherche en fait, des individus, des récits intimes, des blessures et des manières de les dépasser, je crois, de les confier, enfin, à la manière en fait, d'être soi au monde avec modestie. Et c'est tout l'inverse en fait, de la dimension monumentale et triomphale de la statuaire publique, et ça fait du bien. Et ça fait d'autant plus de bien que si les sculptures récemment tombent à certains égards, c'est parce qu'elles sont prises à partie, mais aussi parce qu'on se demande en fait ce qu'elles disent, et aussi par quoi, et peut-être par quel récit, et par quels élans les remplacer. Et voilà une réponse, et ça c'est très louable.
Une réponse, Carla Dras, ce serait les remplacer par les passants, par ceux qui sont sur le trottoir et pas sur le socle.
Oui, peut-être des récits que voilà qu'on pourrait en fait penser qui ne sont pas importants, ou alors parce que souvent de prime abord les personnes vont penser que ce qu'elles ont à raconter c'est pas si important que ça, et alors qu'en fait en écoutant tout devient chaque histoire en fait pourrait vraiment se transformer comme une fiction, comme ou si on rentre dans les détails on se rend compte vraiment de choses assez incroyables par lesquelles les personnes traversent, se passent, et en fait c'est la manière dont on va lui donner du poids, comme donner du récit, qui va faire que cette histoire peut devenir une statue, en fait. Enfin, dans l'idée de la statue, elle peut... n'importe quelle histoire a ce... et que cette personne peut le devenir. Et après, c'est aussi cette chance, cette possibilité de construire d'arriver à construire un langage autour de ça. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas tous ce même accès au langage, ou ce même accès, c'est aussi, je parle souvent de psychanalyse dans mon travail, puisque c'est aussi à travers la psychanalyse que j'ai aussi compris comment on pouvait mettre en rapport, construire un récit de soi, et comment on peut l'exprimer aux autres. Et c'est aussi, la psychanalyse, c'est pas quelque chose qui est possible pour tout le monde. Enfin, on n'est pas tous, c'est pas quelque chose de complètement d'accessible, et c'est une forme de luxe aussi. Donc, c'est aussi une manière, je pense, pour moi, d'avoir compris certaines choses et après de les redistribuer ou de les repartager d'une manière où j'essaye de participer à la construction un peu du récit de l'autre.
Vous voulez dire que vous commencez par écouter les gens?
Oui, parce que aussi.
Vous leur posez des questions?
Oui, je leur pose des questions des fois, et des fois aussi je leur fais écouter une histoire, et une histoire sensible, et où je sens qu'il y a des, enfin voilà, oui, qu'il y a une histoire première où on va parler de quelque chose d'important, et ensuite je lui propose aux gens de réagir la première chose qui leur vient à l'esprit, pour un peu essayer de sortir quelque chose d'assez spontané, et aussi de parler d'anecdotes et de souvenirs qui viendraient un peu comme une espèce de jeu aussi, pour essayer de faire déclencher les gens d'une manière assez libre, et en fait en ayant aussi peut-être l'impression de parler de choses qui ne sont pas si importantes, et en fait souvent on va tirer un fil qui est important. Si on écoute en fait une injustice de quelqu'un d'autre, bon, la première injustice à laquelle on va penser, ben finalement elle va avoir du sens pour peut-être toute notre vie. Et mais voilà, j'ai des process un peu différents en fonction. Et par exemple dans le projet Toucher l'insensé, là j'avais travaillé avec des jeunes, mais là qui eux avaient un accès au langage un peu pas facile, et du coup on avait travaillé avec des images là à ce moment-là pour faire sortir des mots et construire ensuite des vêtements où il y avait écrit ces mots qui faisaient partie de leur identité, mais là c'était encore un autre processus.
Marine Kiziel, vous êtes historienne de l'art, vous travaillez sur le 19e siècle notamment, on l'a vu, mais vous semblez aussi très attentive à la création contemporaine, à l'art contemporain.
Plus ou moins, parce que je dois confesser parfois que tout ne me parle pas et que je ne comprends pas tout, mais ce travail, il m'a particulièrement parlé parce que peut-être il entre en écho avec des pensées contemporaines et récemment, en lisant Dysphoria Mundi, qui est un livre extraordinaire de Paul Brick Preciado, ce philosophe merveilleux d'aujourd'hui, il expliquait en fait que chacun d'entre nous pourrait être une statue, mais pour cela, il faudrait que nos corps comptent. Et ce que l'on trouve dans le travail de Carla, c'est vraiment des corps et des récits qui comptent et qui deviennent œuvres d'art et qui deviennent performatifs. Et
avec, là, oui, avec l'idée que, par définition, tous les corps peuvent compter. On est loin des grands hommes du 19e siècle, Carla Adra.
Et il y avait quelque chose au début du livre aussi que j'ai lu, qui tu disais que Rodin habillait l'absence. Ou une manière, enfin, et je trouvais que ça très beau, et c'est vraiment ça aussi. C'est vrai que c'est l'idée, c'est aussi de rendre visible quelque chose qui ne se voit pas, qui ne se voit pas encore. Et c'est un peu ça que j'ai un peu l'impression d'essayer, en tout cas, de faire, c'est de rendre en fait, on part quand même de corps absent, en fait.
Mais oui, et on dit, ce faisant, le corps social. Et c'est cette bascule, en fait, entre les corps individuels monumentalisés, triomphants, et le corps social dans sa modestie et sa diversité, qui est peut-être la bascule que je sais pas si on peut dire qu'on partage, mais en tout cas qu'on appelle de nos voeux. Et que des artistes, aujourd'hui, mettent cela en œuvre, c'est extrêmement précieux.
On peut voir votre travail en ce moment, Carla Adra ? Bientôt ?
Oui.
Déjà, on peut renvoyer à votre site internet.
Oui, tout à fait. Mon site internet. Et en ce moment, je participe à une expo collective au FRAC MECA à Bordeaux. Et je vais montrer plusieurs vidéos aussi au Parvis, à Tarbes. Et bientôt, une expo au Mans. Oui, dans un théâtre national, mais qui va être visité comme un lieu d'expo. Une expo au Mans qui va s'appeler Maman.
Merci Carla Adra, on va mettre des références et des indications vers ces différentes expositions sur la page de l'émission, ainsi qu'évidemment le titre du livre de Marine Kiziel, Dérobade, Rodin et Balzac en robe de chambre. Mais on passe tout de suite à la rubrique Actualité. Merci à toutes les deux.
Merci. France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
On va continuer à parler de récits, de discours, de mots à propos de la revue qui s'appelle Mots, qui publie son 136e numéro, pardon. Mots, revue sous-titrée Les langages du politique. Et Cédric Passard, vous avez coordonné avec deux de vos collègues, Alma Pierre Bonnet et Denis Jamais Coupé, ce dossier consacré aux mots des guerres culturelles. Vous êtes vous-même politiste, chercheur en sciences politiques, et vous avez co-signé avec vos deux coordinateurs du dossier une introduction qui explique un peu le besoin de revenir sur cette notion de guerre culturelle que, comme je le précisais tout à l'heure, vous avez pris le soin de mettre entre guillemets, parce que c'est une façon aussi de prendre vos distances par rapport à un ça va de soi. On a le sentiment que les gens qui parlent de guerre culturelle sont souvent ceux qui aimeraient qu'il y ait vraiment des guerres culturelles.
Exactement, c'est-à-dire c'est une notion, celle de guerre culturelle, qui est une notion qui existe en sciences sociales, plutôt dans le monde anglo-saxon. Au départ, elle apparaît dans les années 90 avec un professeur de sociologie qui est James David Hunter, dans un ouvrage qui porte cet intitulé-là. Mais c'est vrai que ça a été très vite réapproprié ensuite par des conservateurs américains, hein, et c'est vrai que ça a été réintégré aujourd'hui dans le débat public ou médiatique, évidemment aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays et notamment en France. Mais c'est aussi une expression qui est un peu comme les expressions de gramschisme ou de gramschisme de droite, revendiquées ou réappropriées aussi politiquement. Et on voit effectivement que les acteurs, notamment, qui utilisent cette expression de guerre culturelle, sont souvent situés à l'extrême droite du champ politique, hein, et notamment c'est très présent dans un registre comme celui d'Éric Zemmour, par exemple.
Alors justement, Éric Zemmour fait l'objet et à côté de lui aussi le Rassemblement National, le Front National, l'extrême droite de manière générale, fait l'objet d'un article de Cécile Alduy. Cécile Alduy est professeure de littérature. Au départ, elle est spécialiste du XVIIe siècle, je crois, ou XVIIIe peut-être. Elle est professeure à Stanford, mais elle s'est mise depuis un certain nombre d'années à s'intéresser à la vie politique française en particulier, aussi américaine, et à s'intéresser au lexique, au discours, aux mots qu'emploient différents candidats. Elle a publié différents livres sur ces questions-là. Et là, elle consacre un article qui est titré « Le grand remplacement » entre guillemets lexical. Là encore, évidemment, avec des guillemets à grand remplacement, où elle étudie ces lexiques très précisément. Cédric Passin.
Oui, donc, en effet, cette notion de guerre culturelle, au départ, qui peut désigner la tendance à la polarisation du débat public sur des enjeux liés aux questions, notamment, on va dire, de minorités, mais aussi plus généralement de tout ce qui concerne la liberté culturelle. Hein. C'est une notion, donc, qui comme je le disais, a été vraiment réutilisée par les acteurs politiques à l'extrême droite, en lien justement avec cette notion de gramscisme de droite, hein, qu'on trouve théorisé dès
l'idée
années...
que la droite devrait reprendre l'hégémonie culturelle que la gauche avait acquise dans les années 60-70.
Exactement, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qu'on se trouve se développer à partir des années 80 avec ce qu'on a appelé la nouvelle droite, Alain de Benoist, qui vont commencer à...
Le Grèce, la naissance du Figaro magazine.
Exactement, hein, et donc justement après aussi la victoire de François Mitterrand, et on en trouve encore aujourd'hui justement peut-être la suite, et peut-être aussi un certain nombre d'éléments qui montre que d'une certaine manière, cette guerre culturelle, entre guillemets, menée à droite, montre un certain nombre de résultats. C'est ce qu'elle observe justement Cécile Alduy dans ce texte, hein, qui fait, comme vous le rappeliez, écho à un certain nombre de travaux qu'elle a déjà menés sur la langue de Jean-Marie et de Marine Le Pen, hein, et la langue de Zemmour. Et là, elle actualise justement ses travaux à partir d'un corpus très important, justement, de ses textes et discours de ses dirigeants. Des partis d'extrême droite, et elle montre comment, en effet, pour reprendre ce terme un peu de manière ironique, hein, s'il y a un grand remplacement, c'est d'abord un grand remplacement lexical, en tout cas une tentative de grand remplacement lexical du côté, justement, plutôt de l'extrême droite, qui essaye d'imposer ses idées, ses mots, et qui essaye de remplacer des termes, hein, pour imposer ses idées. Et donc, elle prend un certain nombre d'exemples, et un, notamment, je pense, sur lequel on peut s'attarder, qui est quand même important, c'est que la première ambition au sein peut-être de ces entreprises linguistiques ou langagières de l'extrême droite, c'est surtout d'effacer ou d'annuler, enfin, pour jouer sur là aussi sur les mots, un terme qui est celui d'extrême droite, hein, et donc justement ne pas dire qu'on est d'extrême droite, au point que d'ailleurs aujourd'hui il y a parfois un renversement, c'est quand on parle d'extrême droite à propos, elle le rappelle, hein, ou d'autres articles le rappellent, à propos d'émissions télévisuelles, c'est là que ça provoque le débat, hein, et puis le tabou finalement comme s'il s'était un peu renversé. C'est plus le fait d'être d'extrême droite qui serait complètement en un sens honteux, mais ce serait le fait d'utiliser l'expression pour désigner pourtant des camps dont on peut quand même légitimement et dont la science politique assez objectivement montre quand même qu'ils sont clairement d'extrême droite.
Alors faut peut-être préciser, ce serait des passages aussi, que ce sont des guerres culturelles, donc à dimension symbolique forte, mais ça n'exclut pas nécessairement la violence physique cette fois, puisque ce sont des mots ou des expressions, grand remplacement, qu'on a pu trouver dans les textes écrits par des auteurs d'attentats terroristes terribles, que ce soit en Norvège, à Utøya, ou en Nouvelle-Zélande, des mots d'ailleurs inventés, forgés par des intellectuels, je mets des guillemets aussi, français, ou des écrivains français, qui figurent dans ces textes, au cœur de ces textes de revendication de ces terroristes d'extrême droite.
Oui, et c'est pour ça aussi qu'on a mis d'ailleurs des guillemets à guerre culturelle, c'est que ça entérine une certaine vision de la politique qui est fondée un peu, on pourrait penser à Carl Schmitt, hein, justement, une sorte de dialectique de l'ami et de l'ennemi, et donc parler de guerre culturelle, c'est quand même entériner l'idée que justement on a deux vastes camps ennemis qui sont complètement opposés, qui sont irréductibles, et où l'autre, l'adversaire, n'est plus justement un adversaire, mais un ennemi. Et dès lors qu'on dit ça, et dès lors qu'on a une forme de représentation du monde qui charrie, on va dire, ce type d'image, évidemment, ça peut légitimer des formes d'action, parfois justement violentes. Mais au-delà de ça, alors, il faut rappeler que même si évidemment les mots peuvent légitimer parfois les actions violentes, les mots peuvent être violents en eux-mêmes. Hein. Il y a un aspect qu'on appelle performatif du discours, c'est-à-dire que, évidemment, dans le discours lui-même, il y a une forme de violence aussi en tant que telle.
Alors, il y a un autre article dans ce numéro qui est signé de Guillaume Silol et Margot Mahoudeau sur un autre mot qui a droit à ses guillemets, et on comprend pourquoi, c'est le mot wokisme. Il a droit à ses guillemets parce que tout simplement, on ne sait pas très bien ce que c'est. Ce qu'on sait, c'est que c'est un mot aussi fabriqué par ces mêmes courants. Et cet article s'intéresse à un certain nombre d'articles, de tribunes qui ont fabriqué, en le dénonçant, et fait du même coup exister, au moins dans l'espace public, ce qu'ils appellent wokisme.
Oui, Margot Mahoudeau d'ailleurs avait fait un ouvrage qui s'intitule La panique woke, hein, d'une autre manière, c'est un travail qui est fait sur l'usage véritablement de ce mot qui, en France, c'est intéressant parce qu'il y a personne qui se autodésigne vraiment comme woke. Hein.
C'est pas revendiqué.
Un peu différent aux États-Unis où ça a pu être un terme qui a pu l'être dans un premier temps, au sens où ça renvoie simplement au fait d'être conscient des discriminations, notamment raciales,
éveillé,
ou dont on peut être victime. En France, on a plutôt des dénonciations justement du wokisme, mais sans avoir forcément un camp woke en tant que tel. Donc c'est un registre qui participe simplement d'une forme de dénonciation. Mais c'est aussi une manière, là aussi, vous voyez, de créer des clivages, hein, comme on le disait. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, dans les personnes qui peuvent être anti-woke, et là c'est un travail qui est fait sur les tribunes de presse, évidemment, il y a quand même une grande diversité, a priori. Il y a un espace quand même plus universitaire, d'autres plus militants, d'autres plus essayistes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la circulation de ces motifs. Et justement, comment des motifs qui peuvent au départ appartenir quand même plutôt à un segment de l'extrême droite peuvent circuler après de manière beaucoup plus large dans des médias plus grand public, mais même aussi parfois au sein de la sphère universitaire, par exemple.
Alors, c'est un deuxième article. Il y en a un troisième sur la question de l'ensauvagement, la question du vocabulaire, des mots qu'on utilise pour désigner, décrire un certain type de, je remets des guillemets, décidément, violence urbaine.
Oui, et donc en effet, voilà, c'est aussi une autre polémique, un terme qui est d'abord apparu. Enfin, on peut en trouver évidemment une histoire un peu longue. On pourrait remonter au Karcher de Nicolas Sarkozy, au sauvageon de Jean-Pierre Chevènement, etc. Mais le terme ensauvagement, il est quand même d'abord aussi utilisé plutôt par Éric Zemmour, par Marine Le Pen, suite aussi à l'ouvrage du journaliste Laurent Oberton, La France Orange Mécanique. Et puis effectivement, là, la question où ça fait controverse, c'est quand c'est Gérald Darmanin qui reprend ce terme. Et on voit bien là la difficulté, c'est que derrière ce terme, Gérald Darmanin a beau dire qu'effectivement il n'adhère pas à la vision portée par ce terme et qu'il l'entend dans un sens assez descriptif, mais le terme ensauvagement en tant que tel, il vient quand même métaphoriser justement, il a aussi une représentation de la société avec des sauvages qui sont justement les personnes généralement qui sont issues de l'immigration, c'est celle-là.
Oui, donc une dimension clairement raciste du terme.
Qui est réapproprié, et dans un contexte en plus où il n'est pas forcément en correspondance avec les faits, puisque par ailleurs, les faits de violence tels qu'ils sont attestés dans les statistiques n'augmentent pas, et donc le terme même d'ensauvagement n'a pas forcément une réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux même qui seraient opposés à cette expression, et on le voit même au sein du gouvernement à l'époque, le ministre de la Justice ne voulait pas le reprendre, sont quand même embarrassés parce que finalement, ne pas reprendre l'expression, ça apparaît comme étant justement laxiste, hein, même simplement sur un terme purement terminologique. Hein. Et donc, on voit que la difficulté parfois à imposer un contre-langage aussi est tout à fait, saillant.
Alors, le numéro porte principalement sur la France, mais il y a quand même un article sur le Brésil et sur Bolsonaro, et notamment autour des questions de genre dans la polarisation politique du Brésil contemporain.
Oui, et c'est
en un mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Oui, c'était pour avoir un contrepoint, justement, pour montrer la transnationalisation un peu de ces guerres culturelles, justement, entre guillemets. Et donc, en effet, les campagnes anti-genre, elles ont...
Aux États-Unis, on sait le rôle que ça a joué dans la dernière élection présidentielle.
Par exemple.
Mais aussi au Brésil, en Argentine. En l'occurrence, c'est le Brésil que Antonio Ateide Sandage étudie dans cet article de la revue Mots numéro 136. Merci beaucoup, Cédric
Passa. Merci à vous.
C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Sam Boutata, à la technique Noé Chaban, à la réalisation Jean-Christophe Francis.